Bonjour à tout le monde, je suis Sacha Brun, donc je suis psychologue psychique aérienne et je remercie les organisateurs de m'avoir invité pour parler un petit peu du soleil et des étoiles et donc des phénomènes éruptifs dans les étoiles. Alors, c'est pas très clair pour moi à quel niveau il fallait que je me mette pour parler à tout le monde, donc j'ai décidé de me limiter beaucoup au niveau des équations, on en aura quand même quelques-unes, et surtout de commencer par des phénomènes. Donc, je me suis dit que la meilleure façon de vous donner une justification scientifique de ces trois cours, c'était de commencer par vous montrer des images du soleil à partir de films que j'ai fait très récemment, quelques semaines, dans mon bureau. Il y a un site que je pourrais vous indiquer si vous intéresse, qui est accessible par tout le monde, et vous pouvez voir en temps réel le soleil dans 10 longueurs d'onde différentes. Donc, c'est magnifique, c'est super. Et comme je le disais à Claude ce matin, on a 2 téra de données par jour qui descendent du Soleil pour sans vouloir brancher mes collègues géophysiciens, je ne rentrerai pas dans le jeu de toile à l'air. Alors, en me posant en communauté, je préfère plutôt qu'on soit là et qu'on travaille ensemble. On connaît presque mieux le Soleil que la Terre. Mais je vous dirai pourquoi. Donc, pour commencer, je voudrais. Pourquoi j'ai pas le film ? Normalement, je devrais avoir un truc dans ce film. Alors, super. Et là aussi. Bon, alors, attendez un second, je vais sortir. Et je vais essayer de me mettre. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai perdu mes liens, quoi. Oh non. Bon, ben. Super, donc 2 secondes, je ne sais pas ce qui s'est passé là, un petit bug technique. Donc ça m'embête de commencer par ça, quitter préférence système. Je vais connexion cuisine, il n'y a pas de souci, je peux retrouver les films assez facilement. Donc je vais le faire et vous les montrer. J'espère que ça ne va pas être comme ça tout le long du truc. 2 secondes. Excusez-moi, pour ce petit détail technique, on va juste se connecter. Donc, je voulais vous montrer celui-là de film pour commencer. Donc, je vais essayer d'adapter ça à l'écran. Voilà. Donc, ce film, donc, vu dans la longueur d'onde de 1700 angstroms, et ça correspond à peu près à 6000 degrés. Donc, on est très proche de la photosphère du Soleil. Et ce que vous voyez ici, c'est à peu près, ça indiquait qu'il fait 27 septembre, c'est à peu près une journée de rotation du Soleil. Et ce que vous remarquez tout de suite, c'est que à la surface du Soleil, il y a des taches sombres et des zones autour brillantes. Donc ces taches s'appellent des taches solaires. Et ici, vous ne vous rendez pas vraiment compte, mais cette superbe animation, une espèce d'irrégularité que vous voyez sur la surface du Soleil, c'est à peu près 30 000 kg. D'accord ? Donc, dans une tâche solaire, ici, vous pouvez mettre plusieurs planètes Terre. Donc, ça, c'était le Soleil près de la surface. Donc, maintenant, on monte un petit peu plus en température et on se retrouve à une température non plus de 6 degrés. De 60 degrés dans la longueur d'onde à 340 angstroms. Et donc vous voyez déjà des structures un peu en filament, comme ça, qui sont justement les sources de ces phénomènes. Donc vous voyez, il y a de l'activité, ça bouge, il y a des structures, ça part dans tous les sens. Et la source de ce phénomène. Temporel qui bouge beaucoup, c'est le magnétisme du Soleil. Et c'est une des choses que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Et donc pour finir, on continue à monter en température. Et maintenant, on est dans le fer. Alors, dans la première image, le premier film que je vous ai montré, c'était le continuum. Il y avait vraiment d'atomes, c'était à peu près la lumière complète de tout le spectre solaire. Dans l'image rouge que je vous ai montré, c'était l'hélium 2 fois ionisé. Là, c'est le fer 18 fois ionisé, 17 fois ionisé, donc fer 18, qui est présenté et qui correspond à peu près à une température de 6 millions de degrés. D'accord ? Donc on est un peu plus haut à la surface. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, la température du Soleil est très intense au centre, il y a 15 millions de degrés. Elle chute jusqu'à la stratosphère, où je vous ai montré, aux alentours de 6 degrés. Elle va un tout petit peu plus haut, plus bas, à 4,2 degrés. Et après, elle remonte dans la couronne solaire pour atteindre en moyenne 1 à 2 millions de degrés. Et dans certaines zones d'intensité, comme autour de ce qu'on appelle ces régions actives. Donc, pourquoi on appelle ça des régions actives? C'est que autour des complexes de concentration magnétique, magnétique du Soleil, vous avez cette activité lumineuse et parfois éruptive. Donc, comme c'est le thème de l'école, je vais vous montrer donc des phénomènes éruptifs. Donc là, vous remarquez comme des embrionnements qu'il y a et la réactivité du plasma. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir là? On est en train de voir un plasma chaud magnétisé turbulent en pleine action. Et ça, en permanence, on a ces phénomènes. Alors, ce que je vous dirais, c'est que cette activité varie et modulée et l'objet de mon cours. Donc je vais revenir espérons à ma présentation et en espérant que tous les films vont bien faire ça. Donc je crains le pire. Pas pourquoi il s'est passé ce phénomène-là. Donc du coup on a vu ça, donc le faire. Et là je voulais vous montrer jusqu'à présent, jusqu'au 7 février 2011, nous n'avions jamais observé le Soleil à 360 degrés contemporainement, parce qu'on n'a pas assez de satellites pour regarder la face cachée du Soleil par rapport à la Terre. Et donc ce qu'on faisait ici, ce qui va intéresser nos collègues géophysiciens et sismologues, c'était qu'on arrivait par parce que le Soleil génère des ondes, beaucoup d'ondes acoustiques et voire qui se transfèrent en ondes magnétoacoustiques. On a donc la possibilité d'aller voir la conversion justement des ondes. Quand ils passent à travers des structures magnétiques, que ce soit les nuages solaires, que ce soit des concentrations magnétiques, qui font la conversion et qui modifient le chemin, comme tu l'expliquais par rapport aux ondes, et qui détectent. Et donc on peut faire le far side, on peut, grâce à ces ondes, voir si effectivement celles qu'on détecte, alors il y a beaucoup de faux positifs, hein, mais on voit quand même que pour une grosse concentration de champ magnétique, on arrive. Donc ça, c'est ce que nous permet de voir les satellites stéréo AMP qu'on a envoyé en 2009. Qui ont été mis à une orbite légèrement plus intérieure et légèrement plus extérieure de la Terre, et que donc du coup se sont écartés de la Terre à cause de la vitesse de Kepler qui est plus rapide en allant près du Soleil. Et donc ici, voilà le Soleil à 360 degrés, vu pour la première fois en contemporalité. Vous voyez, il y a encore une petite zone un petit peu de. Mais bon, ça vous donne une idée du Soleil à 360 degrés, à votre sens, qui est actif. Donc, parce que le mapping s'est pas fait parfaitement. On avait une vue, mais quand ils ont regroupé la sphère, ce n'est pas encore tout à fait parfait, je suppose. Donc depuis, on peut l'avoir. Donc, comme vous avez entendu le mot, je vais vous le réexpliquer pour ceux qui ne savaient pas ce que c'est un plasma. Il y a donc 4 états de la matière dans l'univers. Il y a l'état solide, l'état liquide, l'état de gaz. Et quand on continue à chauffer un gaz, par exemple une vapeur d'eau, elle est composée de molécules, quand on continue à le chauffer, les liaisons covalentes des molécules, des atomes entre eux se cassent, et on commence à avoir les atomes qui sont constitués, et les électrons, et plus on monte, plus on arrive dans la phase plasma qui peut être partiellement ionisée ou complètement ionisée avec séparation complète de tous les électrons de leur noyau atomique. Donc, cette phase plasma, qui est le quatrième état de la matière, c'est l'état le plus fréquent de la matière dans l'espace, dans l'univers, où la matière est principalement sous la forme d'un état de plasma. Alors, je ne vais pas vous embêter trop avec les théories, mais je vais quand même vous dire comment on peut décrire les plasmas. Et donc, il y a les dérivations des équations de mouvement des fluides des plasmas. Donc les fluides et les gaz sont faits d'atomes et de molécules, on peut les voir soit comme un continuum suivant des équations macroscopiques dynamiques ou comme une collection de particules individuelles influencées par des forces agissant sur elles, particulièrement dans un plasma de laboratoire, mais à charger comme un tokamak, vous savez, les grandes expériences de fusion magnétique, certains comportements phénomènes physiques sont décrits par une approche particulière. Notre but est donc de développer une théorie dynamique des fluides et plasmas, c'est-à-dire une théorie physique à partir de laquelle l'évolution temporelle d'un système peut être étudiée. Et pour ça, pour développer une théorie physique des systèmes dynamiques, on a besoin de deux conditions. Il nous faut une méthode permettant de décrire l'état du système à partir d'un jeu de variables, c'est-à-dire la pression, la densité, la vitesse, le champ magnétique. Il nous faut un jeu d'équations donnant la dérivée temporelle de ces variables. Donc à partir de ce cadre théorique, on peut commencer à se poser des questions, et donc il y a une équation principale qui est donc l'équation de Schrödinger. Et vous imaginez bien que si vous vouliez décrire votre Soleil, votre Terre avec l'équation de Schrödinger, vous auriez du boulot, quoi. Donc heureusement qu'on va pouvoir passer à des étapes intermédiaires. Donc l'équation de Liouville ne fait que considérer les particules comme étant des particules classiques, et puis après ça se sépare en deux parties, si vous prenez ou pas les effets magnétiques, avec l'équation de Boltzmann et les équations hydrodynamiques, ou les équations de Fokker-Planck, de Vlasov, les équations de Fréchet. Alors je ne vais pas vous embêter, des cours que j'enseigne en master, j'explique un peu ces équations en détail, mais je vais vous parler de la hiérarchie, donc les différentes théories, pour que vous ayez un peu une idée de cette hiérarchie. Donc, quand on le niveau 0, comme je l'ai dit, c'est l'équation Schrödinger, vous avez une onde qui vous permet de décrire une fonction d'onde qui vous permet de décrire l'état de votre système, et c'est vrai aussi bien pour les neutres que pour les plasmas. Après, vous passez à l'état 1, c'est n particules classiques, vous allez remplacer vos n particules quantiques en n particules classiques, et la question c'est comment vous pouvez passer du niveau 0 au niveau 1. Donc il y a certaines conditions pour le faire. Vous avez l'équation de Liouville ou les lois de Newton avec les équations d'Hamilton, on a entendu parler des Lagrangiens, des Hamiltoniens. C'est pareil pour les fluides. Après, vous pouvez, au niveau 2, vous avez une fonction de distribution. Vous ne regardez plus les particules de façon individuelle, mais maintenant, vous les regroupez dans des groupes de distribution, c'est-à-dire pour regarder comment elles sont distribuées. Et ça, à ce moment-là, vous avez l'équation de Vlasov et de Boltzmann, il faut bien. Après, dans le cas magnétique et des plasmas, il y a un niveau intermédiaire qu'on appelle le niveau 2,5, qu'on appelle le modèle à deux fluides, où on prend en compte des fonctions de distribution pour les ions et des fonctions de distribution pour les électrons différents en les distinguant par leur charge. Et puis à la fin, il y a le niveau 3 qui est le modèle continu où, à partir de l'équilibre, en considérant l'équilibre mécanique statistique, genre l'équilibre thermodynamique, on arrive à faire une moyenne des fonctions de distribution et à avoir des quantités macroscopiques qui donc ne dépendent plus de la vitesse, mais sont des moyennes de ces distributions qui sont dans un espace des phases à 6 dimensions, ici 3 de placement et 3 de vitesse, et donc on a un modèle continu qui sont les équations hydrodynamiques ou un modèle à un fluide avec des équations hydrodynamiques. Bon, on va se passer donc dans ce dernier niveau qui est plus standard et qui marche bien. Ça demande le développement de la notion qu'on appelle la particule fluide. Qu'est-ce que c'est une particule fluide? Voilà. Alors, juste pour vous dire, ici, pour passer de là à là, il y a ces phénomènes qui sont liés à l'interaction des fonctions d'onde de vos particules quantiques. Si les fonctions d'onde de vos particules quantiques se chevauchent et interfèrent, vous ne pouvez pas vraiment considérer que votre système est classique. Par contre, si les fonctions d'onde, donc il y a le théorème d'RMFS qui vous permet de faire la distinction, de savoir si votre densité de fonctions d'onde est suffisamment large pour pouvoir vous passer de cette description quantique et d'entrer dans des particules classiques. Alors, nous, on s'intéressait donc à l'approche fluide. Et dans l'approche fluide, il y a deux choses importantes à considérer pour dériver l'équation d'induction, qui est l'équation centrale pour comprendre l'évolution du magnétisme du Soleil et de la Terre aussi. Hein. Quand on considère les phénomènes dans un plasma ayant des échelles spatiales bien plus grandes que la longueur de Debye, qui est une longueur caractéristique d'écrantage, vous voyez, si vous êtes un proton de charge de plus, vous avez autour d'autres protons et des électrons. Il y a une certaine distance à partir de laquelle vous allez avoir une image neutre autour de vous. Mais en très proche de vous, il est possible que vous ayez un atome d'hélium qui soit en charge de plus 2 puis qu'un seul électron, donc vous pourriez avoir des effets de force de Coulomb, parce que vous êtes localement, il y a une charge nette. Mais si très loin, à longue distance, vous pouvez avoir une sorte de neutralisation du plasma, et donc vous n'avez pas cet effet. C'est ce qu'on appelle la longueur de Debye. Et puis, vous avez et des échelles temporelles bien plus longues que l'inverse de la fréquence de plasma. Il y a des phénomènes qui se passent très rapidement dans le plasma. Donc la question c'est de savoir soit le phénomène se passe à une vitesse inférieure à la vitesse de plasma ou supérieure à ces échelles de temps du plasma. Et typiquement, qu'est-ce qui se passe dans les plasmas? Ce qui est très intéressant à comprendre dans les plasmas magnétodynamiques, c'est que les phénomènes sont lents par rapport à l'inverse de la fréquence de plasma, ce qui veut dire que, en fait, les charges se reconfigurent en permanence. Parce que si vous avez une différence de charge dans le plasma, vous allez avoir une différence de potentiel. Vous allez avoir un champ électrique qui va se créer, et vous allez donc avoir une recombinaison de charges. C'est ce qu'on appelle des courants de décharge. Et donc, en permanence, il y a recombinaison des charges et des neutralité en permanence. En même temps, vous avez quand même des courants. Donc, c'est assez subtil de comprendre l'état imaginé, parce qu'en fait, c'est un état où vous êtes en permanence neutre, mais en même temps, vous avez quand même des courants chargés qui se déplacent. Donc, ça, ce phénomène-là se passe aussi de l'échelle de temps sur des phénomènes qui permettent au plasma, en permanence, avec des courants anti-charge, de se re-neutraliser après le passage du courant électrique. Donc, une fois qu'on a fait ces hypothèses et qu'on regarde la séparation, donc on peut être obligé, quand le gaz complètement ionisé peut être traité comme un flux ionique en bas du niveau 2.1 ou niveau 3, on prend les équations de Maxwell et on va négliger le courant de déplacement. Et ça, c'est vrai si les phénomènes qu'on regarde, le déplacement de fluide à l'intérieur de l'objet, sont très inférieurs à la vitesse de la lumière. Et en manipulant ces équations, les équations de Maxwell, on voit que là, il y a une dérivée temporelle de champ magnétique qui est proportionnelle au rotationnel du champ électrique. Et on peut, comme on a ici négligé le courant de déplacement, on voit qu'on a un lien direct entre le courant électrique et le rotationnel du champ magnétique. Et en manipulant toutes ces équations, et en écrivant la loi d'Hopf pour un flux conducteur en mouvement, donc en se mettant dans bon repère, parce qu'on a un placement de mouvement, on a un terme qui apparaît de changement de repère, et on retrouve cette équation très importante qui s'appelle l'équation d'induction. Dv sur dt est égal au rotationnel de la vitesse fois le produit vectoriel du champ magnétique moins ce terme qui est un peu compliqué si votre diffusivité magnétique qui est proportionnelle à l'inverse de la conductivité est constante. Vous allez vous retrouver un terme de diffusion classique en Laplacien. Voilà. Donc, on arrive donc du coup à un système qui permet d'écrire les objets magnétisés où on passe des équations de la mécanique du flux standard dans lesquelles on rajoute l'équation d'induction, le chauffage ohmique ou l'effet Joule dans l'équation d'énergie, et la force de Lorentz au niveau d'équation d'un des stocks des mouvements. Alors ici, vous avez les termes d'inertie, non linéaire, le gradient de pression, la force de gravité, la force de Coriolis parce que l'objet tourne, l'effet Riemann visqueux, et la force de Coriolis, et bien sûr, vous rajoutez la divergence de l'énergie. Donc là,
les phénomènes visqueux ne sont pas négligeables.
C'est-à-dire que, oui, le nombre de Reynolds est tellement grand au Soleil, on pourrait effectivement les négliger, mais nous, on ne résout pas l'air. On préfère résoudre Navier-Stokes parce qu'on pense que c'est mieux d'avoir un bon contrôle du nombre de Reynolds. Mais j'ai des collègues qui résolvent l'air, qui mettent la diffusion, la dissipation visqueuse dans les faisceaux mailles de leur code numérique. Moi, je ne suis pas un grand fan de ça, j'aime bien contrôler physiquement ce que je fais. Donc, on peut parler un peu de l'MHD turbulent. Vous avez un système turbulent et convectif, et où la simple turbulence est magnétisée. La question, c'est de savoir comment elle se comporte. Alors, il y a un nombre de clés à retenir. Si vous deviez retenir qu'une chose de ce slide, c'est ce nombre, c'est ce qu'on appelle le nombre de Reynolds, qui caractérise V, L sur mu, et il s'obtient simplement en prenant le rapport de ce terme-là, de non-linéarité du mouvement, avec le terme visqueux, bon, qui est dans une forme un peu complexe, là, mais la divergence d'un tenseur des contraintes, mais ça peut se mettre aussi comme ici, sous la forme d'un laplacien de la viscosité. Donc du coup, on peut s'intéresser à ce nombre de Reynolds, et quand le nombre de Reynolds est très grand, le système est turbulent. Et qu'est-ce que ça veut dire être turbulent? Ça veut dire qu'il y a une cascade d'échelle. La question qu'on peut se poser, c'est quand vous avez un système turbulent, comment vous distribuez l'énergie en fonction des échelles? Quelle est la forme du spectre, mais faisant le lien entre contenu énergétique et distribution d'échelle. Et ça, il y a un grand chercheur russe qui a fait le spectre de Kolmogorov, qui a fait une loi phénoménologique qui montre que l'énergie cinétique, dans le cas des grands nombres de Reynolds, dans ce qu'on appelle l'intervalle inertiel, c'est-à-dire là où il y a vraiment cascade des grandes échelles vers les petites échelles, se comporte comme K à la puissance -5. Donc ça, c'est la distribution d'énergie. Quand on est en turbulence MHD, on a des interactions avec la turbulence et les paquets d'ondes qui se propagent en plasma, et la puissance change en moins 3 degrés. Alors à quoi ça ressemble ces spectres? Mais voilà les spectres à quoi ils ressemblent. Vous avez en fonction de la longueur du nombre d'ondes, donc là, plus vous allez vers des K et des, plus vous êtes à petite échelle, plus vous allez vers des petits K, plus vous êtes à grande échelle, et vous avez donc un plateau avec injection d'énergie. Donc là, par exemple, vous avez un forçage. Admettons que vous avez une grosse sphère avec une manivelle et du fluide dedans. Et votre manivelle, c'est une sorte de grosse cuillère. Et vous tournez la cuillère comme ça pour tourner cette grosse sphère où il y a du fluide. Et bien, vous allez injecter de l'énergie mécanique dans le système et vous allez regarder comment cette énergie va se propager vers les différentes échelles et quel va être le contenu énergétique de chaque tourbillon. C'est ça la turbulence. Donc, c'est l'histoire de cascade d'énergie où j'ai un forçage ici, comment l'énergie cascade et comment elle interagit avec l'énergie magnétique, quels sont les points de couplage, c'est un sujet de développement très intense en turbulence et en turbulence astrophysique parce qu'il y a des interactions très intéressantes à comprendre. Donc je vous passe les détails, c'était un peu les slides un peu techniques. Donc maintenant je reviens aux étoiles. Comment est la convection dans les étoiles? Alors la convection dans les étoiles, c'est comme on l'a discuté déjà. C'est le transport de la chaleur par des mouvements macroscopiques. Donc, j'ai de la matière et je vais avoir des boulots de convection comme ça, qui vont monter la chaleur. C'est comme ça que vous pouvez chauffer une pièce. La raison pour laquelle, quand vous allumez votre convecteur dans votre chambre et que vous arrivez à homogénéiser la température de votre chambre, c'est pas par combustion électronique. Si vous attendiez le temps de combustion électronique entre votre radiateur pour que ça aille de l'autre côté du mur, vous auriez des soucis, ça prendrait trop longtemps. C'est parce que vous générez une différence de température et vous induisez des circulations dans votre champ que vous ne voyez pas, mais il y a de l'air circule et donc vous homogénéisez la température de votre salle. Et donc c'est ça qui se passe dans les étoiles, c'est pareil. Dans les étoiles, en fonction de la masse des étoiles, et ici, la 1 c'est la masse du Soleil, on va regarder jusqu'à 20 ou 30 fois la masse solaire, ici jusqu'à. Pour être une étoile, il faut que vous fassiez au moins 8% de la masse du Soleil. Sinon, vous êtes une aide brune et vous êtes une étoile échouée. Donc, si vous faites plus de 8% de la masse du Soleil, vous allez commencer à créer une étoile, c'est-à-dire vous allez commencer à brûler votre hydrogène et le convertir en hélium. Donc là, vous avez la convection, vous voyez que ça, ça représente la convection en fonction de la masse normalisée. Donc, quand on est à 1, on a 100% d'étoiles qui convertissent. De 0 à 1, et vous voyez que plus on s'approche du Soleil, moins il y a de masse qui est dans la convection. Dans le Soleil, il y a à peu près 2 à 3% de la masse qui est dans la zone convective. Par contre, quand vous devenez plus massif, la zone de convection s'enfonce dans le cœur et l'étoile devient radiative. Donc les étoiles sont souvent composées de deux zones, une zone où il y a la convection qui transporte la chaleur et une zone où il y a la lumière qui transporte la chaleur. Alors dans le Soleil, on est à peu près à 15 millions de degrés, c'est 1,3 kV, donc c'est à peu près 11 degrés. Donc c'est à peu près, vous générez 1,3 kV, vous générez des rayons X. Donc au niveau des réactions nucléaires qu'il y a au sein du Soleil, qui est la source d'énergie principale, vous générez des rayons X. Ces rayons X interagissent avec la matière, parce que cette matière est opaque, donc elle n'est pas transparente nécessairement au rayon X. Elle se propage et par un mouvement un peu brownien d'interaction, d'absorption, rediffusion, elle se propage dans la zone radiative. Elle finit par arriver à un moment où l'opacité du plasma devient complètement bloquante. Et donc, du coup, là, la lumière ne peut plus sortir. Et elle ne peut plus sortir, elle change localement de la température et vous déclenchez des mouvements de matière de convection qui transporte la chaleur vers la surface. Et à la surface, vous arrivez de nouveau à la photosphère. Où là, l'opacité, la transparence du plasma au rayonnement est devenue de nouveau très peu efficace. Donc vous êtes devenu transparent, et là, d'un coup, vous rayonnez la lumière à l'extérieur. D'accord ? C'est comme ça que ça marche en Soleil. Donc, pour vous illustrer un peu les caractéristiques, vous voyez que ici, c'est la convection à la surface du Soleil. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des granules. Ces granules font à peu près la taille de la France, 1 km. Et ont un temps de retournement lors de 5 minutes. Et vous voyez que, tout à l'heure, dans les premiers films que je vous montrais, on voyait plutôt la supergranulation de à peu près 30 km. Donc vous voyez qu'il y a une hiérarchie d'échelle. C'est pour ça que vous avez parlé de la turbulence, cette planète après ce soleil. C'est-à-dire qu'on est dans le soleil, on a une hiérarchie d'échelles spatio-temporelles. On a des grandes échelles, des petites échelles, elles ont des points de retournement caractéristiques, elles sont contenues énergétiques. Comment vous avez organisé ce passage à grande échelle? Alors, juste pour vous montrer, si ça marche, on peut faire normalement, si lui veut bien, oui, on peut normalement faire des expériences de convection en cuisine pour faire apparaître un peu ces mouvements de convection. Alors, comment on fait ça? Vous prenez de l'huile de qualité, vous mettez du chocolat Valentin parce qu'il est très fin, et vous regardez comment ça se passe dans votre cuisine, vous allez voir la formation de patterns de convection. Alors attention, hein, quand vous vous êtes allé au-delà de ce que vous voulez faire la convection qu'on transporte. Hein, donc ici, quand vous frime qu'elle convecte, vraiment, au-delà, c'est explosif et c'est pas bon. Donc là, vous voyez, vous êtes juste marginalement au niveau de la convection, vous voyez les patterns un peu hexagonaux se former, avec la concentration de chocolat au centre, parce que le chocolat monte, et en périphérie, une petite ligne qui se déclenche. Délimite les cellules de convection. On va faire un zoom après, je crois que si j'avance, voilà, on va se rapprocher et on va pouvoir mieux voir les mouvements. Voilà. Donc on a voilà, la convection faite en cuisine, on peut faire le lien avec ce qui est fait dans les étoiles. Si tout bien marche bien. Donc, alors je vais vous embêter 2 secondes de plus avec les émotions, mais très rapidement. Comment expliquer la convection? Alors la convection, c'est vous avez une particule ici qui a une certaine densité, température et pression. Vous la considérez à l'équilibre de pression, température, et vous simplifiez la vie, ils sont égales, mais vous avez légèrement la perturbée. Et vous la déplacez d'une distance VR. Et elle va s'expandre parce qu'elle est dans une atmosphère stratifiée, et elle va se, par exemple, moins dense, plus haut, elle va s'expandre. Et donc, la convection, c'est une instabilité. Pour qu'elle se déclenche, il faut que la variation de densité à l'intérieur de cette bulle fluide, qui était donc chaude et dense, chaude et sous-dense, soit plus rapide ici pour que ça continue qu'à l'extérieur. Donc on compare, on fait un petit développement limité, on dit que la densité ici dans la sphère, c'est la densité initiale plus un petit développement lié au gradient, E c'est pour l'élément, c'est à l'intérieur de la bulle. Et pareil pour l'extérieur, mais c'est pour surrounding, c'est pour le milieu. On fait la différence de ces deux densités, de ces deux variations, ici, pour savoir laquelle des deux. Et on voit que DR, c'est un déplacement qui est forcément positif. Donc la différence vient de la différence de ces deux gradients. Est-ce que le gradient de variation est plus fort dans la bulle qu'à l'extérieur? Et quand on manipule les équations, je vous passe les détails, on arrive à un critère qui permet de caractériser si instabilité de convection ou pas. Alors, ce critère s'appelle le critère de Schwarzschild, et on peut par exemple considérer une atmosphère dans laquelle l'énergie est transportée par radiation seulement. Alors, le gradient est égal à un gradient radiatif, et on peut tester la stabilité de cette atmosphère en considérant que l'élément se déplace adiabatiquement, c'est-à-dire sans perte de chaleur. Et on tombe sur un critère, si on prend en compte les variations chimiques, qu'on appelle le critère de Ledoux. Si on prend un critère tout simple, on néglige les variations de composition chimique, on trouve le critère dit de Schwarzschild. Alors, il y a une autre notion, c'est que les zones convectives des étoiles sont entourées de zones stables, c'est la lumière qui transforme la chaleur, et il y a ce qu'on appelle la notion d'overshooting. Parce que cette bulle, qui par exemple était en train de descendre parce qu'elle était froide et dense, donc elle tombait à l'intérieur du soleil, elle va arriver à un endroit où ce critère d'instabilité n'est plus valide, et on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la boule retourne complètement? La bulle remonte? Mais non, elle ne peut pas remonter parce qu'elle a une certaine inertie, elle a une certaine vitesse, et tant que vous n'avez pas une force qui va annuler sa vitesse qui était descendante, elle va continuer à descendre par son inertie. Et c'est cette zone, jusqu'à ce que... Alors quand on traverse cette zone convection-radiation, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois qu'on a passé la zone, à la base de la zone convective, ben ça veut dire que le milieu varie plus vite que la bulle. Donc si le milieu varie plus vite que la bulle, on va avoir un endroit où la densité du milieu va rattraper la densité, la surdensité de la bulle. Donc c'est ce milieu ici, ρ égale ρ, et delta t est égal à 0. Et donc à partir de cette limite-là, qui est différente de la limite où on est passé de convection à radiation, on commence à avoir une densité intérieure de la bulle qui est inférieure à la densité du milieu. Donc la force d'Archimède, qui est proportionnelle à la différence des densités, va changer de signe, et vous allez commencer à frémir. Donc votre bulle va finir par s'arrêter et remonter dans l'air. Donc, du coup, c'est ce qu'on appelle la pénétration convective. Alors, je vais vous montrer un film d'un collègue américain où vous avez deux choses. Vous avez une couche magnétique en vert, mais ne la regardez pas. Vous allez voir ce qu'elle va faire sur cette couche magnétique. Et en rouge, vous avez les mouvements convectifs. Mais là, bien sûr, avec le plantage que j'ai vu tout à l'heure, ça ne marche pas. Bon, mais je vous montrerai. Donc, bon, on voit les mouvements de convection tirés vers le bas et reportés. C'est ce qu'on appelle la pénétration. Alors, comme là, le critère de Schwarzschild que je vous décris, c'est un critère qu'on dit invisible. Je n'ai pas pris en compte les effets de dissipation et de diffusion. Alors, on peut en fait déduire un critère qui est le nombre de relais, qui est le vrai critère de l'instabilité de convection. Donc, on se met dans un système simple, expérimental, on a deux plaques, une plus chaude, T0 plus un delta T, et un T0. On commence avec un gradient de température comme ça, donc c'est plus fort ici, c'est moins fort là. Et qu'est-ce que va faire la convection ? La convection, elle homogénéise la température. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez transformer votre gradient comme ça en un truc vertical, où la température sera la même partout, plus deux couches limites très fortes, dans lesquelles vous allez avoir une couche limite thermique, où vous allez devoir vous recoller à la température de la plaque. Alors, on peut faire très simplement, on a notre petite bulle qui est ici, qui veut monter. Donc, la bulle est moins, par exemple, moins dense que le milieu. Elle monte verticalement à une vitesse W. Mais elle doit, parce que là, maintenant, on veut prendre en compte les effets de viscosité, se battre contre la viscosité. Donc, du coup, la flottaison, delta rho G, qui fait monter la bulle, doit être, et on peut l'égaler à la dissipation visqueuse nulle Laplacien de W. Donc, ce qui est nulle Laplacien de W en forme dimensionnelle, c'est nu W divisé par D au carré, parce qu'un laplacien, c'est une dérivée d'ordre 2, donc c'est 1 sur D au carré. Et D, c'est l'épaisseur de la plaque, de la distance entre les deux plaques. Donc du coup, on voit que la vitesse de montée de la bulle, c'est delta rho, le déficit de densité, la gravité, et fois la distance au carré, divisé par la viscosité. Dans un gaz idéal, on peut faire une relation entre les fluctuations de densité, delta rho, et les variations de température, le grand delta T, ici imposé à travers le coefficient d'extension alpha, et on peut relier delta rho à alpha delta T. Donc là, on remplace ici le delta rho par alpha delta T, et on trouve que la vitesse de montée de la bulle fluide, c'est alpha delta T, G, D carré sur mu. Mais pendant que la bulle monte, elle doit, comme elle est chaude, elle rayonne. Et si elle rayonne, elle peut rayonner sa chaleur à l'extérieur. Et si elle rayonne sa chaleur à l'extérieur, elle va donc se thermaliser. Et si elle se thermalise, elle va donc perdre sa flottaison et s'arrêter. Donc si on veut qu'elle convecte, qu'elle monte juste en haut, qu'elle redescende et tout ça, il faut que le temps de montée, dès la distance divisée par W, la vitesse, D sur W, soit inférieur au temps de dissipation thermique, qui est D carré sur kappa. Ou kappa, c'est la diffusion thermique liée au rayonnement. Et donc, c'est ça, quand on remplace cette expression là-dedans, on trouve que alpha delta T G D3 divisé par nu kappa doit être plus grand que 1. Et ça, cette quantité ici, c'est le nombre de relais. Et on démontre avec un petit calcul au back of the envelope qu'il y a une nécessité que ce critère soit plus grand que 1 pour qu'un stabilité de convection existe. Alors bien sûr, ça c'est une vue un peu simple, et il y a eu des travaux beaucoup plus techniques qui ont été faits par Chandrasekhar dans les années 60, qui a montré que ce nombre de relais ici, s'il est suffisamment grand, alors la convection se déclenche, la différence avec le critère de Schwarzschild vient du fait qu'ici on prend en compte les effets de diffusivité, et il a montré que le nombre de relais, selon les conditions limites qu'on prenait, n'était pas de 1, mais était 658, 1100 et 1708, donc un peu plus grand que 1, et si vous avez un champ magnétique qui passe au travers de ce système, vous avez aussi un critère qui fait que le champ magnétique peut inhiber la convection, et donc il faut forcer encore plus fort pour arriver à avoir la convection. Donc ça, c'était sur la convection. Alors, la convection, comme je l'ai dit, dans le Soleil, elle occupe à peu près 30% de rayon, mais que 2% ou 3% de la masse. Et on peut se poser la question de d'où vient l'origine du champ magnétique. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la turbulence à l'intérieur de l'étoile. Et donc, on peut se poser des questions. Alors, il y a différents types de magnétisme. On peut avoir les barres d'aimants qui sont liés au, par exemple magnétiques, qui avaient d'ailleurs été trouvées en Grèce, qui sont des matières ferromagnétiques. Là, il y a des experts par rapport à moi qui l'expliquent mieux, où on a du champ magnétique à l'intérieur qui reste de façon pérenne, et c'est lié à des effets de dystérésie, de champ. Quand on aimante une quantité, elle le conserve. L'autre façon de le faire, tout simplement, c'est de faire un électron aimant. Si vous avez jamais fait ça en pépifigie, je vous conseille de le faire. Vous prenez un fil de cuivre, vous entourez un barreau de fer, parce que ça va amplifier le champ magnétique, et vous mettez une pile électrique, vous faites passer un courant, et vous allez induire un champ magnétique. Bon, ben, ces électro-aimants, qu'on appelle, et pas ces aimants permanents, ces électro-aimants, c'est ce qui se passe dans les objets. Dans les objets comme les planètes, comme le Soleil, comme la galaxie, notre galaxie en Voie lactée ou Andromède, c'est ce qui se passe. Vous avez des mouvements qui convertissent l'énergie mécanique en énergie magnétique. Alors souvent, je prends l'exemple pour que les gens comprennent un peu mieux du vélo. Dans les anciens vélos, on avait ce qu'on appelait les dynamos, ceux qui savent, on mettait une petite dynamo le long de la roue du devant et ça permettait d'allumer le phare. Alors qu'est-ce qui se passe dans la dynamo? Comment elle est faite? Cette dynamo a un axe, et autour de l'axe, il y a un aimant. Et autour de l'aimant, dans le petit container, il y a ça, il y a du bobinage électrique. Donc, quand vous faites tourner l'aimant à l'intérieur, vous induisez le champ électrique, un courant électrique qui lui-même induit un champ magnétique. Bon, un champ magnétique induit un courant électrique. Ce courant électrique permet d'alimenter votre ampoule. La source d'énergie, elle vient d'où? Elle vient des gens qui poussent sur les pédales du vélo. Cette énergie, elle vient d'où? Elle vient du préfet, ce que vous avez pris le matin. Donc, on a un système fantastique qui convertit des bananes en électricité. Donc, c'est bon, là, ce n'est pas exactement ça qui se passe. La source fondamentale d'énergie des étoiles, c'est la gravité. Vous avez un plasma sous gravitation. Cette gravitation a créé des densités, des températures très intenses à l'intérieur du centre du Soleil. C'est a déclenché des réactions nucléaires. Donc, la source de l'énergie nucléaire, c'est la gravité. L'énergie nucléaire après fournit la chaleur et cette chaleur induit des mouvements, des transformations d'énergie de chaleur en énergie de mouvement et l'énergie de mouvement se transforme en énergie magnétique. C'est comme ça que vous avez du magnétisme dans le Soleil, c'est vrai aussi dans la Terre. Bon, il peut y avoir d'autres sources de chaleur dans la Terre comme la radioactivité des émotions, mais il y a aussi des gradations de température et donc du coup ça induit un champ magnétique. Alors il y a un point très important à comprendre. Dans ces phénomènes, quand on étudie le magnétisme des objets, c'est ce qu'on appelle le temps de diffusion ohmique ou le temps d'effet Joule. Il y a combien ça prend de temps pour les courants pour dissiper l'énergie. Vous savez très bien que les lignes à haute tension qu'on a en France ou ailleurs, elles sont à très haut voltage et à très bas ampérage. Pourquoi on a des lignes à très haute tension et pas à très haut ampérage? C'est parce qu'en fait, l'effet Joule est proportionnel au carré d'intensité. Donc, pour une puissance équivalente, UI, la tension fois l'intensité, pour la même puissance, vous avez intérêt à minimiser l'intensité pour perdre le moins possible d'énergie le long de vos lignes de courant électrique. D'accord? Donc, ce temps de dissipation ohmique de l'énergie magnétique, c'est R au carré, c'est-à-dire la taille du système divisé par la diffusion magnétique. La diffusivité magnétique, vous dites, c'est l'inverse de la conductivité, donc plus votre matériel est conducteur, moins il dissipe, et vice versa. Donc vous voyez que quand même, ce temps de dissipation unique est proportionnel au carré de la taille du système. Donc vous imaginez bien qu'entre une étoile et une planète, ou par exemple entre la Terre et le Soleil, il y a déjà un facteur 100 de rayon, vous allez déjà avoir un facteur 10 000 d'écart entre le temps de dissipation ohmique dans la Terre et le temps de dissipation ohmique dans le Soleil. Alors, le temps de dissipation au milieu du Soleil, c'est à peu près 1 milliard d'années. Dans la galaxie, il fait à peu près 100 kilos par sec. Donc, il faut 100 000 ans à la lumière pour traverser la galaxie. C'est quand même grand. Là, les temps sont plus grands que l'âge de l'univers. Ça donne des ordres d'ampleur. Donc, du coup, on peut continuer à regarder l'équation d'induction. Et l'équation d'induction, comme je l'ai dit, est composée de tout gros termes. Et on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe quand on néglige ce terme. On dit, bon, maintenant, je suis dans un système magnétique et je néglige le terme de création champ magnétique. Et bien ça nous ramène directement à une équation de diffusion. La variation pendant le temps de champ magnétique est égale à la dissipation. Et donc, du coup, ça nous fait directement le temps de diffusion unique. Alors, dans les conducteurs en laboratoire, le temps de diffusion unique est petit, 10 secondes pour une sphère de cuivre de 1 mètre. Et dans les conducteurs plastiques, ça peut être très court. Par contre, si le fluide est en mouvement et que sa résistance est négligée, négligeable, donc qui ne dissipe pas de courant, n'énergie pas de courant. On a un terme V sur T qui est égal directement à V cross B, et là on voit du coup, cela signifie que les lignes de champ magnétique sont gérées dans le fluide. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est fondamental, c'est que les lignes de champ magnétique dans le Soleil sont affectées par les mouvements de convection. Et on peut en fait s'intéresser à faire le rapport entre ce terme-là, ici, qui est du V fois B divisé par L, parce que ça c'est un rotationnel, donc c'est du 1 sur une distance, et ça c'est du eta, la place B, donc c'est du eta V sur une distance au carré. Et quand on fait le rapport de VB sur L par eta B sur L2, on trouve un nombre qui est très proche du nombre de Reynolds, et qu'on appelle le nombre de Reynolds magnétique, et qui caractérise le degré de turbulence magnétique d'un système. Et on peut même prendre ce terme de rotationnel de V cross B et le décomposer en trois termes. Il manque un terme en divergence de B, mais comme on sait, le champ magnétique a la divergence nulle. Et on voit qu'on a trois termes. Alors ces trois termes, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont ce terme classique de V dot grade B. Alors les termes en V dot grade, c'est les termes d'advection, c'est les termes de transport. D'accord? Donc là, on transporte avec la vitesse le champ magnétique. Après, il y a un terme en divergence de V. Donc ça, c'est plus que divergence ou convergence. C'est, est-ce qu'on converge, le flou converge pour construire le champ magnétique, ou est-ce qu'il diverge pour étirer le champ magnétique? Donc si vous êtes dans un fluide compressif, vous allez avoir tendance à créer le champ magnétique par compression. Enfin, pas le créer, l'accumuler, on va dire. Et le dernier terme, qui est le terme clé pour comprendre l'effet dynamo dans les objets, c'est ce terme en B dot gradient. Alors là, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui est proportionnel au gradient de vitesse. Donc partout où vous avez des gradients de vitesse, vous allez étirer les lignes de champ magnétique. Et c'est ce phénomène d'étirement des lignes de champ magnétique qui génère de l'énergie. Alors on peut aller un peu plus loin et s'intéresser à la génération des champs magnétiques à grande échelle. Et on peut décomposer dans cette équation l'équation B et U en un terme de grande échelle et un terme de petite échelle. Je vous passe les détails juste pour vous dire qu'on peut arriver à écrire une équation pour l'évolution du champ magnétique à grande échelle. Parce que ce qui nous intéresse, les astrophysiciens, c'est plutôt le champ à grande échelle, le champ à petite échelle, turbulent, qui nous intéresse. Ce qu'on veut, c'est comprendre les grandes structures, ce qu'on veut, c'est comprendre le cycle de nos anges. Et donc, il y a deux effets fondamentaux, j'aimerais quand même que vous ayez entendu au moins ces deux thèmes. C'est l'effet alpha, qui est lié à la turbulence du milieu, et l'effet oméga, qui est lié au cisaillement des lignes de champ magnétique. Si vous avez une ligne de champ magnétique et que vous la cisaillez, comme elles sont gelées dans le fluide, elles vont être étirées et vous allez pouvoir les embobiner et créer des lignes de champ magnétique. Voilà. Donc, le système d'énergie, comment il fonctionne? Vous avez donc de la luminosité qui est liée au fait que les photons ont été créés par la réaction nucléaire, qui passe, qui arrive, qui sort, et là vous avez un gros réservoir d'énergie interne, et vous avez aussi, comme c'est une étoile autogravitante, qui a beaucoup d'énergie potentielle, vous avez aussi un potentiel de l'énergie potentielle. Par le travail de la force de flottaison et par le travail des gradients de pression, qu'est-ce que c'est? La force de flottaison, c'est ce qu'on a vu, c'est la convection. Quelque chose qui est léger monte, quelque chose qui est lourd descend. Et le gradient de pression, c'est quoi? C'est ce qui crée les vents sur Terre. Quand vous avez un maximum de pression, un minimum de pression, vous avez un déplacement de masse. Créer un vent. Donc on voit que ces deux quantités vont créer des mouvements. Mais comme vous remarquez, il n'y a pas un moyen direct pour l'énergie magnétique d'aller chercher l'énergie dans ces deux réservoirs d'énergie. On est obligé de passer par du mouvement pour créer l'énergie magnétique. Mais par contre, dès qu'on a l'énergie magnétique et les courants, on peut les dissiper de façon unique, et là on pourrait dissiper le mouvement par diffusion, par viscosité. Donc c'est un système assez intéressant qui est asymétrique. Il vous faut un intermédiaire pour créer l'énergie magnétique. Mais comme je dis souvent, vous créez l'argent, vous avez plein d'intermédiaires pour créer l'argent, mais alors, par contre, pour en dépenser, ça, tout le monde est d'accord pour le faire. Voilà. Et donc, on peut après se faire un peu des lois d'échelle et regarder un peu comment se comporte le champ magnétique et essayer de faire des prédictions sur l'amplitude du champ magnétique. Alors, si vous prenez un champ magnétique qui est égal à la pression du gaz, vous trouvez que votre champ d'équilibre, B, est de l'ordre de la racine carrée de la densité de votre milieu. Si après vous posez certaines règles pour votre vitesse, vous pouvez faire un lien entre le champ magnétique
et votre, vos propriétés de votre champ, de vos diffusivités, et vous trouvez que l'énergie magnétique doit être inférieure à l'énergie cinétique de votre système. Après, vous pouvez considérer ce qu'on appelle le turbulent scaling, l'équipartition, et ça, c'est dans l'équation d'Aviestov, vous égalisez la force de Lorentz avec le terme d'advection non linéaire, et vous trouvez que l'énergie magnétique est de l'ordre de l'énergie cinétique. Et après, si votre système tourne très vite, vous rentrez dans un équilibre qu'on appelle magnétostrophique, où vous avez la force de Lorentz qui est équivalente à la force de Coriolis, qui équivaut à la force de Coriolis dans votre équation, et vous trouvez que l'énergie magnétique est plus grande que l'énergie cinétique. Alors, dans le Soleil, on est dans le régime turbulent. Dans la Terre, on est dans le régime magnétostrophique. L'énergie magnétique dans la Terre est 100 à 1000 fois plus importante, je crois 10 000 fois même, que l'énergie cinétique. Donc on voit qu'on peut se poser, en fonction de l'objet qu'on regarde, en fonction de ses caractéristiques, on peut avoir déjà une idée du réservoir d'énergie magnétique qu'il a. Alors, j'en reviens à qu'est-ce que l'étoile. J'aime bien cette image, c'est une boule de gaz chaud, autogravitante, la pression du gaz supporte la gravité. Donc là, la pression, c'est la pression des bras du gars. Vous voyez, lui, il ne peut pas en porter plus que 2 ou 3, c'est déjà beaucoup. Ce gaz est chaud, et on peut utiliser, c'est aussi un plasma, il émet de la lumière. Donc ici, vous avez un spectre de lumière. Quand l'étoile est très peu chaude, comme une étoile K qui fait que 3000 degrés à sa surface, elle est mise plutôt dans le rouge. Là, on a le rayonnement du corps noir d'un homme, d'un humain, autour de 37 matin, de 37 degrés. Et donc, vous voyez les températures, et le soleil est au niveau du maximum du pic, parce que sa température est à peu près 5800 degrés. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le soleil rayonne aussi longtemps. Et bien, le Soleil rayonne aussi longtemps parce que on a des réactions nucléaires. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'énergie fine. N'importe, mais bon, vous avez donc la conversion de 650 millions de tonnes d'hydrogène par seconde. 650 millions de tonnes d'hydrogène. Hein, d'accord, donc, et il a fait ça depuis 4,5 milliards d'années. Et en faisant ça, grâce à E égale MC2, il a eu besoin de convertir que 0,5% de sa masse. Donc vous voyez, c'est très efficace comme processus de génération d'énergie. Et là, vous avez le bilan, peu importe, de 4 protons, d'un atome d'hélium. Alors, je passe le truc. Donc voilà les étoiles. Alors, vous pouvez facilement voir dans l'espace, vous regardez le ciel étoilé, il y a différents types d'étoiles. Il y a des étoiles plutôt rouges, des étoiles. Blanche et des étoiles plutôt bleues. Il n'y a pas d'étoiles vertes. Il n'y a pas d'étoiles violettes. Pas d'étoiles oranges. Et le Soleil est jaune parce qu'on a une atmosphère qui filtre la lumière et que la diffraction est beaucoup plus efficace dans le bleu que dans le rouge. Donc la lumière bleue diffusée, c'est pour ça que quand le Soleil se couche, il rougit, parce que vous avez plus de quantité d'atmosphère traversée, donc vous avez plus diffracté la lumière bleue, donc par soustraction devient rouge. Mais le Soleil n'est pas jaune, si vous sortez de l'espace et que vous allez le voir, il est plutôt blanchâtre. Et le Soleil, il n'a pas d'étoile verte parce que la convolution des spectres des étoiles, donc là vous avez des étoiles chaudes plutôt massives, qui ont un corps noir qui est piqué aux alentours de 9000 degrés, et vous avez des étoiles plutôt froides, aux alentours de 3000 degrés, et là vous avez le domaine du visible de votre œil. Ben, la convolution de ça avec les spectres fait que ce que vous voyez pour les couleurs des étoiles, c'est ça. C'est juste rouge. Ben, pour vous, il n'y aurait pas d'étoiles. Et vous l'avez certainement vu déjà dans des expériences de TP où vous prenez un disque, vous avez les différentes couleurs, vous tournez le disque et il devient blanc. Donc vous avez déjà vu que quand toutes les couleurs sont à la même proportion, quand on les mélange, ça fait du blanc. Et là, pourquoi c'est rouge de ce côté-là? Parce que là, ce qui domine, c'est le rouge pour ce truc-là, donc à la sortie de la lumière pour votre œil, c'est du rouge, donc ça vous donne plutôt du rouge. Et ici, la sortie, le pic maximum de toutes les gammes, c'est plutôt du bleu, donc vous avez plutôt du bleu. Donc vous avez rouge, bleu ou blanc. C'est pas parce que je suis français que j'ai fait ça. Donc, on en vient maintenant, je ne sais pas trop où j'en suis au niveau de temps, peut-être que quelqu'un peut le dire. 17h05. Donc, il faudrait que j'arrête pratiquement maintenant. Hein. Donc je vais parler de ça, je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais, mais c'est sympa, je recommencerai bien. Et je voulais finir par le diagramme de Hirschhorn-Russell, qui est la classification des étoiles. On peut classer les étoiles en fonction de leur température de surface et de leur luminosité. la différence étant le rayon, parce que la luminosité c'est sigma T4 et R au carré. Donc si on a la température, on a et on peut avoir le rayon. Donc là vous ne voyez pas bien les lignes de rayon constant. Donc ici c'est le Soleil. Le Soleil est 10 milliards d'années. Donc il y a des étoiles très faibles masse qui vivent plus de 100 milliards d'années. Et il y a des étoiles qui vont vivre dans plus de 100 milliards d'années. Hein. Ils n'ont pas, bien sûr, elles ne sont pas plus vieilles que l'âge de l'univers, qui est de 14 milliards à peu près. Et plus vous montez en masse, moins vous vivez longtemps. Donc vous êtes, pour les étoiles autour de 10 à 15 masses solaires, vous êtes déjà inférieur à 10 millions d'années. Et en fonction de leur évolution, vous allez pouvoir voir comment vous arrivez. Vous allez avoir les géantes bleues qui vont directement se former et arriver là, ou les étoiles comme le Soleil qui vont passer par un schéma et arriver sur cette séquence principale. Ce qu'on voit ici se former, c'est ce qu'on appelle la séquence principale, c'est le temps où les étoiles passent le plus de temps, parce que c'est là où elles convertissent leur hydrogène en hélium. Et je vais vous faire le lien avec ça, je m'arrête ici. Donc voilà le Soleil. Et donc, comme je vous le disais, il faut être aux alentours de 8% de la masse du Soleil pour faire une étoile. Donc, quand vous descendez vers les faibles températures de surface, à un moment, vous passez une limite où vous arrivez dans ce qu'on appelle naine brune, où il y aura eu, lors de la formation, du brûlage du deutérium, mais pas de l'hydrogène. Et après, si vous continuez à descendre en température, vous allez arriver à des planètes géantes, type gazeuses comme Jupiter, qui n'ont brûlé ni leur deutérium, ni leur hydrogène. Et pour vous montrer finalement les histoires d'évolution des étoiles, parce que c'est rapide, ici vous montrez les états relatifs, donc ici Mercure, Mars, Vénus, la Terre, et à chaque fois dans la vignette de droite, on a l'objet qui était au maximum, le plus grand de l'image précédente. Donc ici on a la Terre. Donc, vous voyez la Terre par rapport à Uranus, Neptune, Saturne et Jupiter. Donc là on prend Jupiter, on met ici, vous avez une petite naine brune, une naine rouge, le Soleil et Sirius. Après, vous mettez Sirius, vous avez Pollux, Arcturus, Aldébaran, et ici, vous avez Aldébaran, Betelgeuse, qui est dans la constellation d'Orion, Rigel aussi, c'est deux étoiles que vous pouvez voir dans la constellation d'Orion, et à la fin, vous avez la plus grosse étoile qu'a jamais été observée, qui s'appelle VY Canis Majoris. Vous voyez comme elle est grande par rapport au Soleil, elle fait plus de 1000 fois la taille du Soleil. C'est vraiment une étoile gigantesque et qui fait à peu près 150 fois. On pense que pour l'instant, l'étoile la plus massive qu'on a observée, elle fait c'est à peu près 200 fois la masse du Soleil. Alors, comment se forment les étoiles? Et bien, la question qu'on peut se poser, c'est quand on a un gaz de matière, quelle est la distribution initiale des étoiles? Et juste pour vous, pour que le sachiez, pour une étoile formée entre 10 et 150 fois la masse du Soleil, il y a 50 étoiles de type solaire et 200 étoiles naines. Donc ça veut dire que l'univers est principalement composé de petites étoiles, beaucoup plus petites que le Soleil. Le Soleil est une étoile plutôt modeste, mais qui n'est pas la plus petite. Et les étoiles très massives qui vont finir en supernova et dans les trous noirs, je verrai si j'ai pas en parlé, sont très rares. Et le temps qu'elles mettent pour se former est très intéressant. Et pour les étoiles de faible masse, elles peuvent passer 150 millions d'années rien que pour se former et arriver sur la séquence principale. Le Soleil a à peu près 50 millions d'années pour se former, mais les étoiles de 15 masses solaires mettent 60 millions pour se former et ne vivent que 10 millions d'années après. Donc vous voyez, certaines des étoiles mettent plus de temps à se former que d'autres mettent pour naître, vivre et mourir. Voilà. Et je vais m'arrêter là.